What's up, Marianne?
What's up, aujourd'hui, là, j'ai ton genre d'histoire favorite.
Mon genre d'histoire. Ça veut dire quoi, ça, mon genre d'histoire? Ça veut dire qu'il y a du mystère, des bateaux qui coulent.
Puis des soviétiques.
Ah, les soviétiques. Il nous en manquait une, je trouve, un épisode avec des soviétiques. Il y en a un qui parlait un petit peu des soviétiques.
C'est mais ça, c'est pas, comme si on a contourné le sujet, on l'a frôlé, on est comme un chat, là, mais on n'a pas plongé dedans, et là, on plonge.
Tu sais, les soviétiques, on peut te dire que c'est comme au goût du jour en ce moment, hein?
Ouais, ben là, c'est plus les soviétiques. Les Russes qui veulent refaire leur zone d'influence, mais oui, on va parler des zones d'influence aussi.
Ah, oh, wow!
Absolument,
très... Ça va être éducatif et divertissant.
Oui, c'est ça. Fait que tu vas voir, ça va être super intéressant. Ça... Et puis, le nom de ce bateau-là, et là, on va commencer comme ça, s'appelle le Admiral Nahimov.
Nahimov? Non, en tout cas, c'est pas allemand, mais c'est russe.
Non, c'est russe. Ben, tu vas voir, l'Allemagne est dans l'histoire aussi.
C'est sûr que oui.
Mais j'ai regardé plusieurs vidéos sur Internet, puis ils disent tout le temps Nahimov, fait que c'est ça.
Fait que toi, ce que tu vas dire à chaque fois dans ton épisode, si tu me dis pas, là, je te reprends. Là.
Non, mais toi, ça va t'énerver. Mais en gros, ça s'écrit Nakhimov, tu sais, K-H-I-M-O-F.
On a-tu le droit de dire Nakhimov?
Ah, ben, tu peux si tu veux.
Ça vient d'où ta fascination pour les Russes et les Soviétiques?
Oh mon Dieu, ben de la littérature, je pense.
Ouais, je pense.
Puis de Tchaïkovski, puis la musique, là. Ah ouais.
On peut questionner leur politique, mais ils ont quand même une grandeur dans leur art. Ils ont quand même, ils ont clairement une valeur. Là,
mon Dieu, quand
les Russes et les Soviétiques.
Quand je te pense à toi, je voulais toujours jouer de la musique romantique, tu sais, d'Europe de l'Est ou russe. Puis naturellement, les profs voulaient tout le temps que je finisse par faire du bac, tu sais, parce que...
C'est comme moi,
parce que j'avais pas la discipline pour le bac, puis moi, j'étais... Je pense que j'étais comme profondément une grande romantique dans l'âme, puis ça me faisait trop triper.
Moi, c'est à cause de bac que j'ai arrêté de jouer du violon.
Ah, ben ça!
Parenthèse, c'est pas pour le bac.
Bac et Vivaldi.
Oh, mais c'est comme les méchants, les Russes, mais les méchants qu'on veut aimer, tu sais.
Mais c'est ça, c'est que... Ah,
ben, ils ont pas toujours été méchants dans l'histoire, mais tu sais, c'est comme les bad boys, mais qu'on veut aimer. Ils font ce qu'ils veulent, ils se foutent des ordres.
Parce qu'ils ont comme une norme, il y a quelque chose qui allume tellement. Bref, tout ça pour dire...
Avec beaucoup d'enthousiasme.
Avec beaucoup d'enthousiasme, on va parler du Admiral Nahimov dans cet épisode des Naufragés.
Bon épisode! Nahimov. Je t'écoute. J'allais te dire.
Tu feras pas ça à chaque fois que tu l'as dit. C'est parfait.
C'est parfait, hein?
Oui, c'est 10 sur 10. Un morceau de robot pour Sophie.
Yes.
Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du Titanic russe et du plus grand désastre maritime civil de l'histoire de l'Union soviétique. Là, on a 100 ans là-dedans, et puis, puisqu'il y a eu une guerre, une guerre froide, donc quand on dit désastre maritime civil, il y avait peut-être tant de périodes de civil, mais bon.
Dans les quelques années, quand civil, même,
il faut garder le titre de ce naufrage qui est plus grand désastre maritime civil de l'histoire de l'Union soviétique.
Avec les Russes ou les Soviétiques, il faut toujours que ça soit le plus grand de quelque chose.
Mais justement, ça témoigne du caractère. Bref, le navire, le SS Amiral Nahimov, n'a pas toujours porté ce nom-là, comme j'ai un peu laissé sous-entendre dans notre introduction tout à l'heure.
Induction?
L'introduction!
Excuse-moi, j'ai compris.
Mon Dieu, bois ton café, puis écoute.
OK. Regarde-toi.
OK, parfait. À l'origine, notre SS Admiral Nahimov, il avait été baptisé le SS Berlin III. Oh. Il a été construit dans les chantiers Vulcan en Brême, en Allemagne, et il a été lancé le 25 mars 1925. Encore une fois, un vieux bateau. Il a été lancé sous pavillon allemand. C'était un paquebot de 174 mètres de longueur, très long paquebot, qui pouvait atteindre une vitesse de 16 nœuds. Quand même substantiel pour 1925.
Gros, mais pas trop lent.
C'est ça. Il y avait plusieurs ponts, des piscines, des restaurants, des bars. Vraiment, le Titanic russe.
Moi, là, je comprends pas pourquoi nous, nos bateaux québécois, là, qui font des petites croisières sur les fleuves, ils ont pas de piscine.
Ni bar.
On peut bar, des bars des fois.
Mais tu sais, mettons le
tu
sais, les traversiers. Non, mais c'est vrai, mettons le bateau pour les îles, il y a des affaires dedans, là.
Ouais, mais Ouais,
tu te rappelles-tu les navires Saint-Malo-Saint-Hélier qu'on a pris?
Oui, c'était classe. Et
ça, c'était clean, classe à l'intérieur. Il y avait même des duty-free shops.
Apprenez, là, société des traversées de
Québec. Oui, c'est ça.
Parenthèse.
Le SS Berlin 3, il opérait à l'origine sur la ligne Brême, en Allemagne, Southampton, Cherbourg, New York. Fait que faisait des transatlantiques. Pour la compagnie maritime allemande Norddeutscher Lloyd.
OK.
Il s'agit donc d'un transatlantique. Il va entamer sa première traversée le 26 septembre 1925 et il va rester sur la même ligne, celle que, tu sais, Brême, Southampton, Cherbourg, New York, jusqu'en mai 1939 où il va être retiré du service pour une refonte.
Refonte de la coque?
Un retapage.
Un retapage. C'est un mur de jouvence.
Exact. Parfait. Le SS Berlin 3, il va être réquisitionné par les nazis en 1939 pour servir de navire de croisière pour travailleurs dans le cadre d'une opération qui s'appelait, lorsqu'on le traduit en français, la force par la joie. En gros, c'était une grande organisation de loisirs. Non, mais n'importe qui qui s'est intéressé à la période nazie, là, c'est un concept qu'on a vu souvent. C'était vraiment une espèce de programme étatisé de loisirs qui a été contrôlé par le régime nazi, puis qui faisait partie du front allemand du travail.
Pour rendre les années sombres un petit peu plus légères.
Mais c'est ça, c'est une façon de récompenser les bons travailleurs. Comme, tu sais, si tu faisais du bon travail à ton emploi pour le régime, puis que tu étais un bon Allemand modèle, bien là, t'allais avoir accès à, tu sais, cet organisme de loisirs. Il organisait des vacances, il organisait des trucs comme ça. Par la suite, il va être utilisé comme navire hôpital pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Allemands. Tous les navires hôpitaux allemands, ils recevaient alors un indicatif alphabétique. Puis celui du SS Berlin 3, c'était le A. Donc le A, il peut accueillir 400 patients pendant la guerre, puis un équipage de 165 personnes.
OK.
Il va servir premièrement dans les eaux norvégiennes, puis il va participer en janvier 1945 à l'opération Hannibal. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'opération Hannibal.
Vaguement.
Oui, le nom te dit quelque chose probablement. C'était une opération qui a coordonné le rapatriement à l'ouest de plus d'un million de civils, de réfugiés, puis de soldats allemands de l'est pendant les offensives soviétiques de Prusse orientale puis de Poméranie orientale. Fait que dans le fond, quand l'armée russe sent à l'arrivée à grande vitesse vers Berlin, ben là, il y a eu l'opération Hannibal, que c'était on rapatrie le monde à l'ouest le plus vite possible. Le SS Berlin 3, il va couler une première fois le 31 janvier 1945 après avoir heurté une mine. Les Allemands l'abandonnent.
OK.
Là, ça va être les Soviétiques qui vont parvenir à le remettre à flot. Ouais. Le bateau...
Ils ont volé le bateau.
Exactement. Et là, le bateau, il est dans un très mauvais état. Il a coulé, là. Hein? Il est dans un mauvais état. Il est envoyé en URSS en 1946 et il est rebaptisé...
Le Nahimov.
Le SS Admiral Nahimov. En l'honneur d'un commandant russe qui avait joué un rôle important pendant la guerre de Crimée.
OK.
On s'entend pas la guerre de Crimée de 2014. Exactement.
La vieille guerre de Crimée.
Il va rentrer en service commercial après avoir été... retapé, en 1957 pour la compagnie de navigation de la mer Noire. Et pendant un certain temps, il va même être le bateau amiral de cette compagnie-là.
Oh boy! Fait qu'un bateau qui a coulé, qui a été volé...
Ouais, qui date de 1925, qui a été conçu par les Allemands, qui est tout poqué, c'est ça le bateau amiral.
Puis ils se sont dit que ça va être moins cher de renflouer un bateau coulé allemand que d'en construire un.
Oui, mais c'est une réflexion très socialiste, je trouve.
Oui, moi aussi, je trouve. Puis en plus, c'est écologique.
Ben c'est, exactement.
Tu sais, il y a cette courrier-là, bon. Je ne me rappelle pas c'est quoi le nom en allemand. Là.
Le SS Berlin 3.
Berlin 3. Le Berlin 3, il y avait courrier-là.
Ben, là, eux, puis ils l'ont ressorti de l'eau.
Sorti. Bravo, c'est yes, c'est très bien.
Fait que bon, il va continuer à avoir une histoire assez intéressante. Là. Durant la crise des missiles de Cuba en 62, il va servir pour transporter des troupes à destination de Cuba, des troupes soviétiques. À son retour, on va recommencer à l'utiliser pour des croisières commerciales. Fait que c'est vraiment une histoire de... C'est un navire, tu sais, civil pour le commerce, pour des croisières, pour l'armée allemande, retourne au civil, retourne pour l'armée soviétique. Fait qu'il y a vraiment eu de multiples usages. L'amiral, il va donc, c'est ça, faire des croisières en mer Noire en revenant de Cuba, entre Odessa et Batumi. Puis c'est des voyages de 6 jours. Puis c'est ça qui commence à faire de façon plus fréquente. Il transporte en moyenne 1000 passagers par voyage. Quand même gros. Puis l'équipage fait de son mieux, dans le fond, pour préserver l'image de luxe de l'amiral, tout en omettant de l'entretenir correctement, disons.
Évidemment.
Évidemment. Dans les années 1980, obtenir un billet pour monter sur l'amiral, c'était rare. Puis les Soviétiques, comme, ils en rêvaient. Fait qu'il y avait vraiment cette image de billet inaccessible, inatteignable, qu'on faisait miroiter. Puis que quand t'arrivais à mettre les mains là-dessus ou d'en obtenir, c'était comme la fête. Là.
Mais les gens, ils étaient pas un peu déçus
Ben,
en
c'est ça.
Lancé le bateau.
C'est ça. C'est un mirage,
en gros. Un petit peu de vodka, puis après, ça va bien.
C'est un mirage parce que ceux qui parviennent à monter à bord, ils se rendent fous. Bien compte, là, puis très vite, que le bateau qui a maintenant plus de 60 ans, on dit dans les années 80, il est tout pourri à l'intérieur.
Là, il a passé combien de temps dans le fond de l'eau?
Mais, ben, c'est ça.
C'est
ça. OK, fait que là, bon, il va avoir une collision. Il va pas couler parce qu'il est pourri, là.
Okay.
Mais ça l'aidera pas son ressort, disons. Le 31 août 1986, à 20h, l'amiral, il part du port de Novorossiysk, dans la mer Noire, afin d'entamer sa traversée de la mer Noire en direction de Sochi. Là, maintenant, tout le monde sait c'est où Sochi, là, depuis les Jeux Olympiques. Là, vraiment, une station balnéaire. Ben, c'est une grande ville, mais il y a une station balnéaire assez touristique. Dans cette traversée-là, il y a 888 passagers, puis 346 membres d'équipage à bord, donc plus de 1100 personnes. La plupart sont ukrainiens ou moldaves, alors que d'autres sont des ressortissants des Pays-Baltes et d'Asie centrale. Le capitaine du bateau pour cette traversée-là s'appelle Vadim Markov. Alors que l'amiral se prépare à quitter le bord le port vers la baie, vers 22h, il y a un seul autre bateau qui attend pour entrer dans le port. Il faut comprendre que le canal, le chenal, dans le fond, pour traverser, il est très étroit, donc un seul bateau peut passer à la fois. Puis puisque l'autre bateau qui attend pour rentrer dans le port, c'est un cargo, il aurait dû avoir la priorité sur le bateau de croisière. Or, en raison du « prestige » entre guillemets de l'amiral, on va ordonner au cargo de laisser passer l'amiral, puis d'attendre son tour. 40 minutes avant minuit, l'amiral il va entrer en collision avec le cargo. C'est un gros transporteur de vrac qui arrive, c'est ça, dans la baie, puis le cargo il va percuter le côté tribord de l'amiral à pleine vitesse.
Et fait que c'est le cargo qui fonde dans l'amiral.
Exactement.
OK.
Il s'appelle, pour la petite histoire, parce que les Canadiens, on est quand même dans cette histoire, le cargo qui percute l'amiral s'appelle le Piotr Vassiov, puis transporte une grande cargaison de céréales canadiennes.
Yes, go Habs!
Qui s'en allait au port de la ville. Il va créer un premier trou dans l'amiral, lorsqu'il va le percuter, puis lorsque l'amiral va continuer d'avancer, il va déchirer plusieurs mètres du côté tribord parce que, tu sais, le bateau fonce dedans, il est pogné.
Les deux allaient vite.
Mais l'autre allait vite, puis c'est tellement un gros bateau que, tu sais, le cargo est resté pris dans la coque et l'amiral a continué à avancer. Alors, le cargo, il a dérivé, puis il a juste tout déchiré le côté du navire.
Pas de chance, hein?
Non, vraiment pas. Fait que là, ça va créer une brèche de 84 mètres carrés au niveau des machines. Fait que l'amiral, il va couler en seulement 8 minutes.
Wow, c'est rapide. Belle job, les Canadiens.
C'est très rapide. La collision va faire 423 morts sur les 1234 passagers à bord.
Pas bon.
Et en 1986, ça fait pas longtemps.
Non, c'est pas un bon ratio de pourcentage de pertes.
Là, bien entendu, c'est un désastre.
Ben,
ouais. Et plusieurs erreurs ont été commises. Premièrement, 30 minutes, on va revenir dans le temps, parce que c'est ça qui est un peu intéressant, parce que les choses se sont... on a su vraiment... après les commissions d'enquête, puis ça a été long de trouver qu'est-ce qui a été fait. Mais parmi les erreurs qui ont été dénotées puis soulevées, premièrement, 30 minutes avant la collision, le capitaine de l'amiral il est allé se coucher. Puis il avait laissé le navire entre les mains de son assistant, qui s'appelait Alexander Chounovsky. Là, son assistant, lorsqu'il remarque que le cargo diminue aucunement sa vitesse pour le laisser passer, il a appelé en panique Victor Tchachenko, qui était le capitaine du cargo. Puis lui, il va le rassurer en lui affirmant que les deux bateaux, ils vont se croiser sans se percuter, il n'y aura pas de problème, ça va être correct, les deux directions ne vont pas se croiser. Le capitaine du cargo, il ne va pas changer la direction ni la vitesse. À partir de 23h, Chounovsky, qui était l'assistant sur l'amiral, Il va télégraphier plusieurs fois au cargo à propos de sa course, puis finalement, il va modifier la trajectoire de l'amiral pour essayer de ne pas percuter le cargo.
Il a attendu avant de le faire.
Et oui, il a attendu. C'est uniquement lorsqu'un membre de l'équipage de l'amiral va qui va informer le capitaine qui se dirige directement vers l'amiral, que là, le capitaine du cargo, il va changer sa direction puis sa vitesse. Mais il était beaucoup trop tard.
Was he drunk? Sur la job.
Le cargo qui était beaucoup trop lourd, il va répondre à aucune des manœuvres. Genre, il répondait pas. Ils ont échangé de changer la vitesse puis la direction, mais c'était beaucoup trop tard. Là, une autre erreur. Lors de la collision, toutes les fenêtres étaient ouvertes. Parce qu'il faisait super chaud, la ventilation était mauvaise. On s'entend, c'était un bateau pourri de l'intérieur. Là. C'était pas le gros. C'était une image de luxe, mais c'était pas le luxe. Ça l'a empiré la situation parce que ça l'a permis à l'eau de s'engouffrer beaucoup plus vite dans l'amiral. Puis là, de plus, les cloisons étanches du navire qui auraient pu le sauver, techniquement, il avait été retiré durant sa reconversion. Il n'y avait plus de cloisons étanches dans le navire. Mais là, au moment de la collision, il y avait des centaines de passagers qui étaient en train d'écouter un film dans le cinéma de l'amiral. Puis là, l'ensemble des lumières du bateau vont s'éteindre rapidement en même temps. Puis puisque c'était le beau milieu de la nuit, plus personne ne va rien voir.
Mon Dieu!
Fait que les passagers, ils vont se précipiter sur le pont, ceux qui sont capables. Puis ils vont être uniquement capables de lancer 16 radeaux de sauvetage d'un côté. Parce que de l'autre côté, le navire, il gitait beaucoup trop. Puis les bateaux de sauvetage étaient inaccessibles. Puis en 3 minutes, le bateau, il est couché sur le côté. Donc, ça va empêcher toutes les personnes qui se trouvaient sur les ponts inférieurs de quitter le navire. Parce qu'ils sont pris au piège.
Oh non.
Les personnes
c'était qui... pas les plus riches, hein, sur les ponts inférieurs, je suppose.
Ah, mais
non. Ça suffit au Titanic.
Ben, tu sais, on sentait qu'on était en Union soviétique, donc c'était des communistes, donc j'imagine que tout le monde avait un peu les mêmes moyens, là, mais en tout cas, c'est ça. Ils ont été pris au piège. Les personnes qui vont parvenir à se rendre sur le pont, ils vont sauter à l'eau, là, elles savaient qu'il n'y avait aucune autre solution. Là, il y avait 16 radeaux, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne sera pas suffisant. Seulement un rescapé sur 3 est parvenu à mettre un gilet de sauvetage aussi. Puis on sait même pas s'il y en avait pour tout le monde. Là. Plusieurs passagers ne savaient pas nager. Heureusement, bon, au moins une chose s'est allée bien. Là. Le port, il était pas loin. Parce
mais que c'est ça. C'est un canal, fait que c'était pas
exactement, c'était en sortant du port que c'est arrivé cette collision-là. Donc, les premiers bateaux de sauvetage vont parvenir au site du naufrage en 20 minutes.
C'est bon.
Ça, c'est bon. Ça, c'était quand même quelque chose qui est allé bien dans ce drame-là. Qui somme toute, il y a eu 400 morts, là, fait que c'est quand même triste.
Ben, il faut des victoires, hein?
Le pilote Vaziev, là, le cargo, lui, il est très peu endommagé, donc il va pouvoir aider au sauvetage aussi. Fait que ça, c'était pas pire. En tout, il y a 64 navires puis 20 hélicoptères qui vont aider. Les témoins, ils rapportent que les naufragés, ils étaient complètement silencieux, en état de choc, lorsqu'ils ont été secourus. Tu sais, c'est tous des civils, là, c'est pas comme... lorsqu'on parle d'un naufrage de bateau militaire, tu sais, veut pas, ils n'ont pas été entraînés à faire naufrage, mais c'est des soldats, l'adrénaline est là, les chaînes de commandement, c'est simple. Là, c'était juste, c'était un vrai état de choc. Pendant 16 jours, les secouristes puis les plongeurs, ils vont récupérer des cadavres.
Oh.
Ouais. Ils vont travailler 24 heures sur 24 sans prendre de repos. Quand il y a deux plongeurs qui émergeaient, il y a deux autres qui descendaient dans les eaux. Puis ça a été très difficile psychologiquement pour les plongeurs de participer à l'opération de sauvetage puis de rapatriement des corps.
Mais ils ont décidé de rapatrier les corps.
C'est ça.
Ils font pas tout le temps ça, là.
Non.
Ça, c'est bien pour les familles, honnêtement.
Ouais, mais tu vas voir, ils vont finir par arrêter l'opération, là, parce que ça a été vraiment, vraiment difficile. La plupart des plongeurs, ils n'avaient jamais vu une telle quantité de morts auparavant.
Mais c'est ça. Puis, much,
hein? Il y avait énormément de pression sur les épaules pour opérer le plus rapidement possible. Là, on s'entend, tu sais, c'était en tout cas, bref, tout le régime puis la pression politique qu'il y avait aussi sur l'histoire. Donc, c'est ça. Fait que là, l'opération de sauvetage, elle va cesser après la mort de deux plongeurs.
Oh non,
qui, okay. ouais. À la fin, il y a 64 corps qui sont restés dans l'épave. Dans le fond, qu'est-ce que les commandants de l'opération de sauvetage ont dit? C'est, en gros, c'était « we don't swap the living for the dead ».
Mais non, mais c'est tout le temps ça, là, quand tu veux sauver. Quand tu veux sauver quelqu'un, faut pas que tu perdes ton sauveteur en même temps. Là.
Exactement.
Mais je parle par expérience.
Ouais, madame la sauveteur, hein, qui écoutait de la musique il y a 3 secondes.
Bon, passons.
Fait que là, Il y a seulement quelques journalistes qui ont été autorisés à couvrir l'opération de sauvetage. Très peu. Encore une fois, il y avait un certain embargo là-dessus. Les deux capitaines y ont été arrêtés respectivement le 1er puis le 2 septembre 1986. Des accusations vont être posées, puis bon, soudainement, l'assistant du capitaine, celui qui a appelé le cargo en lui demandant de changer de direction, il va mourir pendant le... Donc les accusations vont pas être portées contre lui, mais vont être portées contre les deux capitaines.
Attends, mais il est mort comment?
Lui qui dormait.
Il a-t-il été assassiné? C'est sûr qu'il a été assassiné.
Non, mais je pense qu'il y a eu plus une thèse de suicide, là, mais...
Oh, oups, okay.
Il y avait comme trop de pression. Mais c'est pas très clair. Pour vrai, c'est pas très clair.
Si les soviets, on a un doute là-dessus.
Non, mais je sais pas, je m'avance pas, mais quand tu creuses un peu le truc,
mais
c'est qu'il est mort durant les accusations.
Mais on essaie de l'accuser, lui?
Ben, au début, oui, là, au début, il voulait les poser les accusations sur l'assistant du capitaine aussi, mais finalement, bon, l'autre, on s'entend qu'il était allé dormir, là, puis
c'est lui qui a été... Quand t'es assistant... ton responsable.
Il y a des trucs de responsabilité du commettant aussi. Bref, les deux capitaines ont été accusés. La faute du capitaine du cargo, elle était évidente. Il a refusé de changer de direction, il a refusé de changer de vitesse, puis il a même détruit de la preuve en arrachant des pages de son carnet de bord.
C'est sûr, il était sous sa job.
L'histoire le dit pas. Mais tu sais, on peut... Ah non, faut pas faire de conjectures, mais ça se... ça se pourrait.
Une des hypothèses est qu'il était sous la job, mais nous manquons de preuves.
Je pense que Sophie, elle aime son hypothèse.
Ben moi, on dirait que j'y crois. Là. C'est des marins, pas de jugement, un gros cargo, détruisant ses preuves. En tout cas, continuons.
La Sdropia. Mais là, bon. Finalement, les actions des deux capitaines vont être reconnues comme de la grossière négligence. Ah ouais? De la grossière négligence. Ils vont être tous les deux condamnés à 15 ans de prison. Aujourd'hui, chaque année, il y a un bateau qui va quitter le port de Novorossiisk le 31 août afin de rendre hommage aux victimes. Puis il y a plusieurs survivants, des sauveteurs, des membres de l'équipage, donc toutes les gens qui ont été impliqués dans le drame à l'époque, qui répètent le pèlerinage annuellement chaque année. Puis il y a un monument aussi qui a été érigé en mémoire aux victimes.
C'est comme un cimetière sous-marin, on se fait quelque chose?
Non, le monument, il est sur la rive, là. Mais c'est vraiment, ils font, je trouve que c'est quand même une belle... c'est la première fois que je le vois là, dans les histoires de naufrages qui nous ont intéressés, cette espèce de petit rituel après de refaire la traversée entre les deux endroits, puis ils le font à chaque année.
Encore aujourd'hui?
Ouais, depuis 1986. Mais tu sais, il y a encore beaucoup de... Il y a encore des survivants. Il y a beaucoup de témoignages qu'on peut trouver. C'est le fun, là. Il y a beaucoup de gens qui ont été interviewés surtout depuis la chute de l'Union soviétique, là. Il y a des médias occidentaux qui se sont intéressés à cette histoire-là puis qui sont allés interviewer des gens. Puis les témoignages sont assez impressionnants, tu sais, parce que c'était des touristes, dans le fond, là.
Ouais, c'est
qui ça. Étaient là, tu sais, c'était monsieur, madame, tout le monde, là. Puis eux, ils ont été pris là-dedans. Puis oui, il y a eu 400 morts, mais il y a eu, puisqu'il y était plus de 1100, 1200 à peu près, il y a eu quand même beaucoup de survivants. Donc, on a pu en apprendre plus sur comment c'était à l'intérieur, comment c'est arrivé et tout. Mais bon, il y a eu la négligence des deux commandants des bateaux, mais il faut quand même que se rappeler comme il n'y avait plus de cloison étanche.
Non,
ils ont fait la refonte du navire, il a été refondu deux fois, une fois par les Allemands puis une fois par les Soviétiques après qu'il a été refloué. Mais c'est ça l'affaire aussi, c'est comme... Il y a beaucoup là, de décisions politiques là-dedans aussi, puis de l'histoire sociale non soviétique. Il y a des moments où, quand ils l'ont refloué, peut-être dans les années 50, eux, là, c'était pas la... Ils voyaient pas une utilisation du bateau jusqu'en 1986.
Non, c'est ça. Mais tant que ça continue de fonctionner... Ouais. Mais c'est comme si tu as un petit bateau en papier, puis tu lances une roche dessus, il va couler. Là.
Ben oui.
Leur bateau était pas... Peut-être qu'un bateau en top shape, qui respectait toutes les normes, puis qui était super bien entretenu... aurait quand même coulé, mais peut-être moins vite.
Ouais.
En tout cas.
Puis tu sais, on va mettre des images là, sur Instagram, mais ça vaut la peine de le googler, le nom du amiral Nakhimov, parce que quand on le regarde, c'est impressionnant. Là. C'est un vieux cargo, là. Ça ressemble au Titanic ou à l'Empress of Ireland ou à ce genre de bateau-là. Mais il avait été peint comme complètement en blanc, juste pour que ça soit archi clean. Donc ça donnait vraiment une image de wow, quel beau bateau! Mais tu sais, c'était pas le grand luxe à l'intérieur, là.
Mais tout est dans l'image, hein, comme on dit, ouais. Apparemment.
Mais c'est fou, c'est vraiment comme la couche de peinture qui change complètement le look du bateau, puis l'espèce d'impression qui donne l'espèce de dorade de luxe.
Mais c'était bon, ils se viennent dans dans leur promo, dans leur, ben non, mais dans leur pub, ça vient un peu avec l'esprit, on dirait qu'on a deux, tu sais, de oui, plus grande nature, alors ouais, que le fond n'est pas nécessairement...
Ou on fait grand avec ce qu'on a aussi.
C'est ça, faire t'sais, beaucoup avec le petit qu'on a, tu sais, mais là, ça a mal viré.
Ouais, mais...
Si on peut dire ça de même.
Absolument. Ben moi, je trouve, tu sais, c'est triste, mais l'histoire du bateau en tant que tel, ce coup-ci, c'est pas juste... L'histoire du naufrage, c'est que malheureusement, il y a eu de la négligence, puis c'est un... aussi,
on dirait que ça allait mais... arriver à un moment donné avec ce bateau.
Exactement, mais quand tu regardes l'histoire du bateau au complet, là, quand tout ce qu'il a fait, c'est assez impressionnant, là, comme objet, ce bateau-là, c'était quelque chose. Hein.
Mm-hmm.
Il aurait pu être remusé à main de fois, disons.
Ouais, là, il aurait pu le mettre dans un musée, là.
Quasiment.
Puis là, le peint en blanc, puis tu sais, venez visiter le bateau, mais pas le mettre sur l'eau. ça aurait été plus sécuritaire.
Exactement. Ah. Donc, c'était l'histoire du amiral Nahimov.
Bon, ben, bye-bye, Nahimov. T'as pas dit trop souvent le nom, fait que j'ai pas trouvé...
Mais j'ai fait exprès.
Ouais, j'ai trouvé bon en nom. Ouais, mais c'était fun, il en fallait un bateau soviétique, moi, je trouve.
Ouais, oui, puis surtout, fallait... c'est pas un navire de guerre, là, c'était vraiment... Bon, ça l'a été, mais c'est... Lorsque le naufrage est arrivé, c'était vraiment une histoire de naufrage civil.
Parce que, tu sais, dans les naufrages comme de l'Estonia, guerre, on en a... Oh, c'est ça, on en a couvert quelques-uns, là. Mais c'est quand même un risque prévisible que ça finisse par couler, tu sais. C'est pas une grande surprise, souvent, oui, là.
Ben oui.
Fait que... Mais dans le truc civil, t'essaies de supposer que ça arrivera pas.
Ouais, puis c'est pour ça que les éléments de contingence sont tout le temps plus... un peu impressionnant, mais un petit peu comme crève-cœur, pince-cœur.
Ben oui.
C'est la chose aussi que t'en veux pas trop des exemples de naufrage civil, parce que non, toi, quand tu prends un bateau, t'es...
C'est ça.
Tu croises les doigts, puis tu touches du bois.
Ça tente pas de finir au fond de la Manche, ou au c'est fond ça, de l'eau, tu sais.
Ouais.
Ah ben merci Marianne.
Fait plaisir, je suis contente, puis je suis contente que tu aies appris la prononciation de Nahimov.
Nahimov, je vais dire ça tout le temps maintenant. Puis j'espère que vous aussi, là, ceux qui écoutent, vont dire ça aussi.
C'est très important.
Fait que n'hésitez pas à commenter, me donner du feedback si tu veux que ça leur tente. Puis sinon, c'est pas bon. On se voit à la semaine prochaine.
On se voit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye.